encore que de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
En direct avec les portes de la connaissance. Et alors, dans les portes de la connaissance, je vous avais dit qu'on aurait l'émission du commandant Grélé. Je vous rappelle que je vous avais promis la semaine dernière l'émission du commandant Grélé, ce qui ne sera pas le cas pour ce vendredi. Le commandant Grélé, ce sera le vendredi prochain. Il était prévu qu'il soit là ce vendredi, mais on avait prévu une autre émission à la place, puisqu'on avait prévenu Ovni Languedoc, justement, qui est avec nous en direct. Et on va parler d'un fait que vous connaissez bien à la radio, un fait que nous présentons, que nous avons présenté très souvent, puisqu'on avait reçu plusieurs ufologues à la radio, on avait reçu Alain Blanchard. Alain Blanchard était venu. On avait reçu aussi un autre monsieur, un journaliste de TF1, qui nous avait parlé d'OVNI. Donc voilà. Donc là, on est en direct sur les ondes de radio dans les portes de la connaissance. Et je vous présente donc OVNI Languedoc. Alors, bonjour.
Oui, bonjour Patrice, bonjour tout le monde.
Alors, justement, pour OVNI Languedoc, alors qu'est-ce que c'est qu'OVNI Languedoc? Qu'est-ce que c'est?
Bon, alors c'est simple, c'est une association type 1901, loi 1901, qui a été créée en 2003 et qui fonctionne depuis avec... on a commencé à 3 et puis actuellement, je crois qu'on est 27 membres. J'ai la chance d'en être le président depuis longtemps. Et notre ADN, notre travail essentiel consiste à réaliser des enquêtes de terrain que nous rendons publiques, mais après une certaine durée, quand elles sont conclues, quand on a trouvé une solution, ou bien quand on pense ne plus arriver à trouver de solution, on communique là-dessus. On organise aussi des congrès annuels. Le dernier, là, c'était il y a 8 jours, on vient de le passer, enfin il y a 10 jours, on organise des RUOL, des rencontres ufologiques d'OVNI Languedoc, on publie un magazine qui s'appelle Logosphère, on écrit des bouquins, on est très actif.
D'accord. Pourquoi avoir eu cette idée? Est-ce que tu étais dans les repas UFO avant ou alors c'était venu comme ça?
Alors, l'idée de créer l'asso, tu veux dire?
Oui, l'idée de créer l'association.
D'accord. J'étais avant dans une autre association qui s'appelait SOS OVNI, parce que j'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI en 1993, un petit peu par hasard. Et je n'ai jamais décroché depuis. Donc, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, je crois, je suis entré dans SOS OVNI. D'ailleurs à Bordeaux, puisque j'habitais Bordeaux à ce moment-là, et un ufologue bordelais, Jean-Pierre Segonne, m'a appris à faire des enquêtes de terrain, il m'a appris pas mal de choses en ufologie. Et un peu plus tard, quand j'ai déménagé pour des raisons professionnelles, je suis parti dans ce qu'on appelle l'Occitanie aujourd'hui, SOS OVNI a disparu, et on a décidé de fonder une association régionale. Donc, on était trois, il y avait Bruno, il y avait moi. C'est ce qui nous a poussé à le faire pour continuer à travailler en équipe sur le phénomène OVNI. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Oui, oui, tout à fait. Bon, et par rapport à l'ufologie, qu'est-ce que vous y faites exactement? Parce que bon, tout le monde connaît bien, bon, Christian Comtesse est passé à la radio. Christophe Hesson est passé à la radio, Jean-Claude Bourré est passé à la radio. Donc on a des ufologues qui sont passés, qui ont des activités, je dirais, de chercheurs. Jean-Pierre Petit était passé à la radio. Donc ce sont tout ça des chercheurs ou des écrivains. Et on a Christian Comtesse qui fait partie des Repas ufologiques, qui est une association, donc bien connue. Et est-ce que c'est du même type? Est-ce qu'on fait un repas? On se réunit autour d'un repas? On parle d'ufologie? Ou est-ce que c'est une façon différente de faire?
Je dirais que c'est différent et à la fois pareil. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, notre travail de base, c'est l'enquête de terrain. C'est-à-dire qu'il faut être connu pour que des témoins nous contactent et pour qu'on puisse travailler sur leur observation. On a, sur les 27, je crois qu'on a 11 enquêteurs réguliers. On fonctionne par binôme, un binôme interchangeable et ce n'est pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est la base de notre boulot. Après, oui, je connais Christian, je connais les autres que tu as cités. J'ai été secrétaire en temps des repas ufologiques, quand il y avait Christian, d'ailleurs, qui venait de prendre la présidence. Donc, on faisait des repas avant que Christian ne reprenne les repas UFO. On appelait ça les rencontres du Dôme, puisqu'on les faisait dans la brasserie du Dôme, dans le centre-ville de Montpellier. Donc c'était un moyen pour nous de nous faire connaître et puis de diffuser un peu d'informations sur le phénomène OVNI. Ce qu'on fait, en gros, pour être synthétique, a deux volets. Il y a le volet enquête de terrain, il y a le volet information. Donc outre les RUOL dont je parlais, les rencontres ufologiques qu'on continue à mener, qui ressemblent au repas ufologique, si tu veux, on ne les mène plus au Dôme cette fois-ci, on va les mener dans le restaurant Flutch qui est à Pérol, c'est la banlieue de Montpellier. Il y a plus de facilité pour se stationner. Donc ça ressemble à ce que font les repas UFO. On est en contact, bien sûr, avec les repas UFO de Toulouse aussi. Et autre élément important du volet médiatique, pour se faire connaître, on fait tous les ans un congrès. Alors pas tout à fait tous les ans, puisqu'on a fondé l'asso en 2003, mais cette année au 13e congrès ufologique d'OVNI Languedoc. Donc il y a des années où on fait relâche, ça a été les années Covid par exemple, ce genre de choses. Là on a accès, et je crois que c'est une première, en France en tout cas, une première dans l'ufologie récente, parce que je ne suis pas remonté jusqu'aux années 50-60, mais on a accès à notre congrès, le 13e congrès, sur le témoin et le témoignage. Il ne s'agissait pas de laisser parler, de faire parler outre mesure les ufologues ou les scientifiques, comme ça nous est arrivé dans le passé, ce qui est très bien aussi, hein. Mais on a laissé vraiment la parole aux témoins qui sont venus s'exprimer, tout ça encadré par OVNI Languedoc, toujours pour qu'il y ait une bonne ambiance. Et ça a été plutôt une réussite. Peut-être qu'on le refera dans les années qui viennent, de remettre l'accent sur le témoin et le témoignage. Parce qu'après tout, s'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'ufologie, et je pense que tu es d'accord.
Oui, tout à fait. De toute façon, l'ufologie, il y a certaines formules qui sont une formule de conférencier. Donc, on fait venir des conférenciers, on fait un repas et on fait une réunion avec des conférenciers. Donc, ça, c'est une formule. Et puis, il y a le terrain d'enquête, les enquêteurs, qui sont le cercle principal de l'ufologie, puisque sans enquête et sans témoignage, l'ufologie ne vaut rien. C'est justement par les enquêtes et par le terrain sur le terrain, que les gens peuvent témoigner, dire voilà, j'ai vu telle chose, et donc je rapporte tel élément, ça passe ou dans les radios ou à la télé, et on montre que l'ufologie est quelque chose de réel qui existe bien. Sinon, il n'y a pas de conférence non plus. Donc c'est effectivement, comme tu le dis, un terrain qui est porteur de l'ufologie, tout à fait. Alors justement, les enquêtes, ça se passe comment chez vous?
Alors, dans un premier temps, on va demander aux témoins qui nous a contactés, ou aux témoins s'ils sont plusieurs, de remplir chacun une fiche, on appelle ça une fiche de pré-enquête. Donc on la leur fournit, ils nous la retournent complétée avec un maximum d'informations dessus. Cette fiche a un double objectif, d'abord voir si le témoin est motivé. S'il est motivé, il fera de son mieux pour remplir la fiche. Et obtenir un maximum d'informations sans avoir encore vraiment commencé l'enquête à partir des documents qui nous retournent. Cette fiche, elle va être attribuée à un binôme d'enquêteurs, comme je disais, qui vont s'en saisir et l'étudier. À partir de là, ils vont décider si oui, il y a une enquête de terrain à mener ou non. Si par exemple sur la fiche que le témoin nous a retournée, il y a marqué j'ai vu quelque chose, c'était l'été 1998 du côté de Rennes. Bon, vu le manque de précision, on ne pourra pas avancer dessus, donc il n'y aura pas d'enquête du tout. Mais s'il y a effectivement la date, le lieu, des informations précises, on entamera une enquête. À partir de là, l'étape suivante, c'est la rencontre avec le témoin ou les témoins. Ce que j'ai appris au Képan 2, d'ailleurs, que le Gépan ne le faisait pas, il faisait des enquêtes souvent en distanciel, dans la rencontre n'était pas systématique. Alors, chez nous, par contre, la rencontre est systématique, elle est obligatoire, c'est l'étape suivante dont je parlais. On va voir le témoin, le binôme le rencontre, et on recueille davantage d'informations. Voilà, un face-à-face, ça permet toujours d'avoir plus d'infos, de les vérifier aussi, de prendre des mesures si on s'associe au domicile ou sur des lieux et sur des lieux, pardon, d'observation. Donc, on va ressortir de cette première rencontre avec un certain nombre d'informations supplémentaires. À partir de là, des procédures de vérification vont être lancées. On va chercher à savoir ce qui a été vu, évidemment, si on peut l'expliquer. Certaines pistes vont être privilégiées. Parfois, ça peut être, comme ces dernières années, des satellites Starlink. Ça peut être des avions. Ça peut être des phénomènes météorologiques. Bon, bref. On va contacter également les aéroports, les gendarmeries, même les pompiers. Ils ont été utiles lors d'une enquête il y a 2-3 heures. On va faire un maximum. Au besoin, on reprend contact avec le témoin pour le rencontrer à nouveau, préciser certaines choses. Dans tous les cas, on le tient informé, alors pas tout chaque semaine et pas régulièrement, mais on le tient informé de l'avancement des choses tous les 2 ou 3 mois, on va dire, sauf s'il nous sollicite avant, évidemment. Et à l'arrivée, on a 2 solutions. Au bout d'un certain temps, où on pense qu'on a trouvé l'explication et on va tâcher de le démontrer, ou on pense qu'on ne va pas y arriver. Et ben on va dire aux témoins que ben pour l'instant, on va laisser le dossier de côté parce qu'on n'arrive pas à trouver une explication. Évidemment, si on l'a trouvé, on la présente aux témoins et on lui explique par le menu comment on y est arrivé et ce qu'il a vu, quoi. En termes de chiffres, je peux dire qu'actuellement, on est à peu près, alors j'ai oublié les chiffres exacts, mais on est à peu près à 45% des observations qui sont enquêtées qui trouvent une explication chez nous. Ça veut dire qu'il y a 55% des enquêtes qui ne mènent à rien. Beaucoup, c'est parce qu'on a peu d'infos quand même. On en avait assez pour commencer une enquête, mais trop peu pour arriver jusqu'au bout. Et puis, il y en a certaines, malgré tout, avec lesquelles on a des infos extrêmement documentées et pour lesquelles on n'arrive à rien. Je pense, par exemple, à un balai lumineux au-dessus de Montpellier, le quartier de Clémentville, ou des observations dans la garrigue limoise. Enfin, il y a plusieurs choses pour lesquelles on a plein de documents, plein d'infos, et pourtant, on n'est pas arrivé non plus à expliquer ce que c'était.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu, est-ce que dans les témoignages que tu as recueillis, est-ce que vous avez des choses un peu qui sortent du lot? Parce qu'on a souvent des témoignages, on a des sphères, des disques lumineux ou pas, et on a souvent des témoignages qui se ressemblent beaucoup. Mais après, on a des fois des témoignages qui sont un petit peu particuliers. On a des ovnis triangulaires, par exemple. On a effectivement des rencontres, je dirais, du deuxième type plutôt, ou du premier type. Tu n'as jamais eu de rencontre du troisième type.
En fait, si, mais bon, c'est une autre histoire. On pourra en parler dans 2 minutes si tu veux. On a beaucoup de sphères, je suis d'accord, je crois que c'est la forme la plus décrite par les témoins, mais il n'y a pas que ça. Tu m'as fait penser, là, en parlant, tu es passé de la sphère au triangle, bah, c'est exactement ce qu'un couple de témoins a vu à 7. Pour vérifier l'année, mais je crois que c'était en 2011. Ils ont d'abord observé une sphère énorme qui n'était pas. Qui n'aurait pas dû être là selon eux, ils connaissaient le ciel nocturne. Et chez eux, bon, ils ont observé la sphère, elle s'est déplacée, il y a eu une deuxième sphère qui est arrivée ensuite, et la deuxième sphère, en arrivant au-dessus d'eux, s'est transformée, enfin, ils ont vu que ce n'était pas une sphère uniquement, mais un triangle sombre avec un point lumineux, quoi. Je pensais à ça. Après, il y a des cas très étranges, on en a eu, hein. Alors pareil, l'année m'échappe, il y a une dizaine d'années à peu près. Dans le Var, on n'est pas cantonné à l'Occitanie en fait, et on se déplace au-delà, même jusqu'en Espagne parfois. Dans le Var, on a une enquête à mener avec une famille. Le papa, bon, pour faire simple, était fusilier marin. C'était pas le genre à plaisanter trop avec ça, mais il voulait pas contacter le GEPAM ni la gendarmerie du fait de son boulot. Il voulait pas que ça lui retombe dessus. Je sais pas si ça lui serait retombé dessus, mais en tout cas, lui ne voulait pas contacter les autorités, donc ils nous ont contacté nous. Et ce qu'ils nous ont raconté, parce qu'on y allait effectivement en binôme, j'y étais là, avec une collègue, on a interrogé les membres de la famille séparément. Les enfants, par exemple, ont été interrogés séparément. Les parents aussi, de notre côté, je m'étais occupé des adultes et ma collègue s'était occupée des enfants. Donc, en gros, ce qu'ils ont vu, c'est une fois en rentrant d'un repas chez des amis, sur une route de campagne, la nuit, oui, on se croirait avec David Vincent, là, peut-être, mais ils ont vu un phénomène, ce qu'ils ont pensé d'abord être un hélicoptère, à se rapprocher d'eux au-dessus de la voiture avec des lumières, mais ce n'était pas un hélicoptère, c'était un triangle qu'ils nous ont décrit. Un triangle qui allait se poser un petit peu plus loin dans un champ à côté d'une vigne. Or, il se trouve qu'on a effectivement trouvé des traces dans la vigne, de forme, enfin, entre 3 traces, un triangle qui pourrait correspondre à peu près, à quelques mètres près, à l'endroit où ils avaient pensé que ce qu'ils ont vu comme ovni s'était posé. On n'a pas pu vérifier l'origine de ces traces. Le vigneron n'a pas voulu nous parler, quoi. Donc, si ça se trouve, c'est lui qui avait fait ces traces avec des moyens, fait pour des raisons autres. Ou si ça se trouve, c'était vraiment des traces d'un phénomène ovni. Dans la foulée, donc, on a su que la nuit, les deux garçons qui dormaient dans des lits jumeaux ont observé dans leur chambre ce qu'on ne peut appeler qu'un man in black, et qui serait sorti en traversant le mur. Hein. Ils ont fait un dessin, d'ailleurs, à la demande de ma collègue, ils ont réalisé un dessin. Celui qui était en bas, il n'avait vu que la partie du bas, celui du haut, la partie du haut. Ça correspond effectivement à un gros chapeau large, noir, pas de visage, une tache sombre, un costume noir en bas, des jambes qui sortent sous le costume, bon bref. Et ce cas-là, après l'enquête de terrain, on a quand même réussi à trouver 4 ou 5 autres familles dans le secteur qui avaient observé un ovni, alors pas le entre guillemets Men in Black, hein, mais le phénomène ovni lui-même. Et on a contacté effectivement la gendarmerie du coin, qui nous ont dit qu'eux n'avaient rien vu, n'avaient rien reçu comme témoignage. Par contre, ils nous ont rappelé un petit peu plus tard pour savoir si on avait avancé sur le sujet. Ils avaient eu, après nous, effectivement, un témoignage qui était arrivé, qui concordait à ce qu'on était venu nous chercher comme info. Donc ça, c'est un cas au degré d'étrangeté quand même qu'on n'a pas pu résoudre. Et puis on parlait, dans notre cas, du côté des Pyrénées, pas loin de l'Espagne, on a toute une famille la nuit qui a observé des sphères lumineuses dans le ciel et une entité dans les prés qui circulait un petit peu comme si elle cherchait quelque chose avec une lumière à côté de sa tête. Et ça a duré 1 heure et demie. Et comme ils sont dans un endroit très reculé, il n'y a pas de voisin. Le voisin le plus proche, je me souviens plus, on avait mesuré, mais il est à quelques kilomètres. Ils n'ont alerté personne. Ils ont observé ça pendant 1 heure et demie, et puis ça a continué, mais ils sont allés se coucher. C'est assez bizarre, je suis d'accord. Ils avaient été alertés par le chien, un des chiens en tout cas qui aboyait la nuit. Ça aussi, c'est un cas qui a été extrêmement intrigant, parce que la famille est plutôt, enfin nous sommes en tout cas de bonne foi, mais on n'a pas trouvé d'explication non plus.
D'accord. Bon, on va faire une petite pause de musique. On fait une et on revient avec OVNI Languedoc juste après cette pause. À tout de suite.
Thank you.
De retour sur les ondes de radio, donc je vous rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent sur les ondes qu'on est avec OVNI Languedoc, une association qui fait des enquêtes de terrain, beaucoup d'enquêtes de terrain. On avait vu avec Christian Comtesse les repas ufologiques, qui est une association qui invite des conférenciers, qui fait des repas, mais là on est dans un autre domaine, on est dans le domaine du témoignage, de l'enquête, ce qui est très intéressant, parce que ça permet d'aller voir des faits réels sur le terrain. Donc on est en direct pour ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas que l'émission est un podcast sur les portes de la connaissance des émissions du vendredi d'Ode Radio. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut... on a vu des témoignages, tu nous as parlé de faits intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus sur OVNI Languedoc? Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire?
Alors, ces témoignages et le travail qu'on fait nous permettent d'alimenter un magazine qui n'est pas très régulier. Il paraît tous les 3 ou 4 mois en fonction de la nécessité et en fonction de nos disponibilités, parce qu'on est tous des volontaires, des bénévoles qui travaillent par ailleurs. Hein, donc on fait ce qu'on peut. Mais ce magazine Logosphère commence à être assez connu pour que finalement ce soit un peu les autres qui fassent le travail pour nous, puisque au début on a commencé par écrire les articles, etc. On a invité tel ou tel ufologue à rédiger quelque chose, et puis bon là, je crois que on a des articles qui nous arrivent tout seuls d'Espagne, du Royaume-Uni avec Philippe Mantel. Là, dans le prochain Logosphère qui sort ce mois-ci, c'est son deuxième article, je crois, qu'il nous a demandé de publier. Vicente Juan Ballester-Olmos en Espagne, il en est à son troisième. On a d'autres ufologues espagnols comme Nando Dominguez qui ont déjà publié chez nous. On a Bruno Mancusi, un Suisse, qui va publier aussi très bientôt. Donc les gens en Europe nous envoient des textes. Même aux États-Unis, il y en a eu un une fois qu'on n'a pas pris. Et là, c'était un peu différent de notre ligne éditoriale. On publie des articles qui sont des articles de fond ou des comptes rendus d'enquête. Et quand c'est les comptes rendus d'enquête, c'est nous qui les publions, c'est nous qui les rédigeons, pardon. Et ça concerne notre travail, parce qu'à la base, on avait pensé Logosphère comme un magazine associatif. Et puis, bon, c'est devenu un magazine associatif et généraliste aussi, comme je disais tout à l'heure, avec la participation de gens de toute l'Europe, de Français aussi, comme Thibaut Canouti qui a écrit. Souvent, ou je ne sais plus tout qui est. D'ailleurs, tous les ufologues sont invités à nous envoyer des textes. Mais attention, c'est un magazine à comité de lecture. Ça veut dire qu'il nous arrive aussi parfois de refuser un texte et on ne veut surtout pas vexer, on le fait gentiment. Mais il ne faut pas se vexer si on finit par dire non à l'arrivée, quoi. Notre magazine n'est pas très épais. Il fait 30 et quelques pages. On ne peut pas publier tout le monde. Donc voilà pour le magazine Logosphère. En fait, vous pouvez en trouver quelques numéros en ligne, hein, gratuitement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai parlé du congrès, non, le dernier congrès peut-être. Donc le 13e, qui était axé sur les témoins. Ouais. En fait, on alterne depuis quelques années les interventions, donc là, de témoins ou les conférences réalisées par des ufologues. Avec des projections de documentaires. On a fait 2 festivals du court-métrage ufologique. L'an dernier, c'était le deuxième. Le premier, c'était avant la Covid, si je me souviens bien. On a donc des projections de documentaires ufologiques. Il faut parfois acheter les droits. Parfois, on nous les propose gratuitement, gentiment. Là, on avait la chance d'avoir... Alors, ce n'est pas un festival. On n'a pas décerné de prix cette année, puisqu'on a voulu laisser plus de place aux témoins. Donc, du coup, moins de place aux court-métrages et aux conférences. On a quand même projeté 4 documentaires. L'un que tu connais sans doute, qui s'appelle OVNI, l'incroyable vérité d'Alain Guadalpi et Gérard Barbois.
Oui, tout à fait.
C'est celui qui... Ouais, il avait gagné le 2e festival du court-métrage ufologique chez nous. On a projeté aussi un documentaire d'ODHTV de Gilles Thomas, qui s'appelle Mémoire d'un ufologue Bernard Dupy. Donc c'est un petit documentaire d'une demi-heure sur la carrière, entre guillemets, ufologique de Bernard, qui était un ami, qui est mort quelques semaines après le tournage. On a projeté, ah oui, celui-là, c'est de Sophia Laoui, je sais pas si tu le connais, qu'importe que les bêtes meurent. En fait, c'est pas vraiment un court-métrage, c'est plus, enfin, c'est un court-métrage, mais c'est un film, c'est pas un documentaire. Il a eu le César du meilleur court-métrage en 2021 et sa réalisatrice, Sophia Laoui, nous a bien volontiers donné l'autorisation de le projeter. Ça se passe au Maroc, en fait, c'est très intéressant, il y a un jeune qui doit chercher de la nourriture au village qui est en plus bas dans la place. Et quand il arrive au village, il n'y a plus personne. Il reste très, très peu de monde, il reste deux personnes. Où sont-ils passés? On voit que le phénomène OVNI est impliqué. Et en fait, derrière tout ça, il y a aussi une assez mordante critique de la société au Maroc, pour être honnête. Mais bon, on parle quand même d'ufologie. Et puis, on a projeté aussi le dernier documentaire qui parle d'OVNI Languedoc. Il a été réalisé par Frédéric Siller de Via Occitanie, et ça s'appelle OVNI OVNI et si nous n'avions plus honte d'en parler. Je sais qu'il est disponible maintenant sur YouTube. Frédéric Siller est devenu un copain, hein, il est venu au congrès d'ailleurs, on se voit de temps en temps. C'est un excellent journaliste qui n'a pas d'a priori et qui est très ouvert sur tout ça.
D'accord.
Voilà.
Alors qu'est-ce que tu as une question en dehors du cadre, enfin c'est en dehors du cadre, ça fait partie du domaine ufologique, mais c'est en dehors du cadre de l'association. Qu'est-ce que tu penses du phénomène ufologique aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans dans le monde? Est-ce que tu penses qu'il y a une avancée par rapport aux témoignages? Est-ce que tu penses qu'on va vers quelque chose qui tend à penser qu'on va, on va nous dire la vérité?
Alors, je vais essayer de compartimenter ma réponse. Dans un premier temps, l'ufologie d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celle que je menais dans les années 90, par exemple, et encore moins à celle d'Aimé Michel ou de Jacques Bergier, les tout premiers, ou de Jimmy Gueux même. Non. Aujourd'hui, on a des moyens techniques, technologiques, qui nous permettent de faire beaucoup de choses rapidement. Quand on nous apporte, comme c'est arrivé cet été, une vidéo avec des points lumineux qui se traînent dans le ciel, qu'on nous dit voilà, ça a été pris de tel endroit à telle heure, il faut à peu près 2 minutes pour aller voir si c'est un Starlink ou pas. Dans les années 90 ou 70 ou 60, on pouvait toujours s'accrocher pour vérifier si on avait un satellite qui se déplaçait ou pas dans le ciel. Là maintenant, ces moyens technologiques nous apportent une facilité énorme. Même quand on prend une photo, on peut avoir l'azimut, on peut avoir plein de trucs avec des applications que tu mets sur le téléphone. Par contre, le revers de cette technologie, c'est que ça apporte aussi beaucoup de mauvaises choses. En particulier chez les jeunes ufologues qui ont passé, en gros, bon, je vais caricaturer, mais ils ont passé 2 heures à surfer sur le net et ça y est, ils savent tout. Ils ont tout compris, ils peuvent tout expliquer, ils ont la solution. Quelle qu'elle soit, extraterrestre ou pas extraterrestre, on s'en fiche. Mais ils savent tout. Bon, ça, c'est assez ridicule aussi. Après, est-ce que la deuxième partie de ta question, moi, je dirais que ça touche l'éventualité de révélation. Est-ce qu'on est en train de révéler des choses sur le phénomène OVNI, avec Rush aux États-Unis, avec l'article du New York Times il y a quelques années? Est-ce qu'avec les vidéos de la Navy, on avance? Alors honnêtement, si tu me demandes si j'attends une révélation venue des États-Unis, je pense qu'on a à peu près autant de chances de l'avoir que le Père Noël en vrai à Noël. Hein. Tout ça, ça fait, je sais pas, depuis 93 que je m'y intéresse, c'est quoi? C'est la 20e série de révélations. Et que je sache, on n'a toujours pas l'ombre d'une preuve, plus qu'avant en tout cas. On a des indices, enfin moi je suis convaincu que le phénomène OVNI il existe, c'est pas le souci, j'ai des indices qui le démontrent. Par contre je n'ai pas la preuve qu'on soit visité par 44 races qui viennent d'ici et de là et qui se planquent sous le garage ou je ne sais où. Grush il a dit des choses mais il n'a apporté aucune preuve, donc il faut le croire sur parole. Moi je veux bien croire les gens sur parole mais je préfère les preuves. Quand la marine des États-Unis certifie que les vidéos qui ont été publiées ont été prises par des chasseurs de chez eux qui ne sont pas arrivés à rattraper les cibles ni à les identifier, là je considère davantage qu'il y a une preuve et que c'est du sérieux. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont vu ces pilotes de la Navy? Bon, à moins que la Tanzanie ou le Zimbabwe aient mis au point une arme de dernier cri qui va plus vite que tout le monde, ce dont je doute, il y a de fortes chances pour qu'il faille recourir à des hypothèses plus exotiques, on va dire, éventuellement extraterrestres, ce serait la plus séduisante, pour expliquer ce qui a été filmé. J'espère que j'ai bien répondu à ta question.
Oui, oui, tu as bien répondu à ma question. Tout ça pour dire qu'on a quand même l'impression qu'on a un déblocage sur le terrain. On n'a pas forcément de grandes avancées parce qu'on a patiné pendant de nombreuses dizaines d'années. Mais on a quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui parlent. Les pilotes parlent davantage. Les astronautes, les cosmonautes, les spationautes ont moins peur de parler. On a l'impression qu'on a un déblocage quand même, non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Un déblocage par rapport aux 30 dernières années, oui, mais par rapport aux années 70, par exemple, non. Bon, là, j'étais trop jeune pour les avoir vécues, mais d'après ce que j'en vois, dans les années 70, on parlait couramment du phénomène OVNI. C'était quelque chose qui était abordé en famille, au repas, c'était à la télé toutes les semaines, à la télé nationale. Hein. J'ai l'impression qu'entre-temps, entre aujourd'hui et cette époque, il y a eu un recul, on n'a plus osé en parler, on est très cartésien chez nous, c'est ridicule, en plus la presse a tourné ça en ridicule plus d'une fois, la presse audiovisuelle en particulier. Est-ce qu'on a vraiment une porte ouverte à nouveau vers plus de débats à ce sujet ? Oui, 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 mais je ne suis pas convaincu que ça ne retombe pas. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, est-ce qu'on ne va pas retomber dans nos travers du passé et revenir à la rigolade, hein ? C'est Molière qui disait que quelque chose du genre, je ne me reviens plus exactement, mais bon, qu'il est facile de faire rire les gens que de pour se les mettre dans la poche. Je ne suis pas très optimiste, honnêtement. Hein.
D'accord.
Après, c'est bien que le Sénat s'y intéresse aux États-Unis, c'est bien que le Pentagone s'y intéresse, mais ça ne... même s'il continue à s'y intéresser, ça... nous, on n'en saura rien, finalement, du résultat. Parce que le Sénat, à un moment donné, il va se retrouver face à une porte fermée, parce qu'un service secret qui s'y intéresse aux États-Unis, ben, il aura peut-être quelque chose à dire, mais il va dire que c'est classé secret, et même un sénateur ne pourra pas y avoir accès. Il n'y a pas que les États-Unis. Moi, je ne pense pas qu'il faille attendre beaucoup des États-Unis, beaucoup plus que nous en Europe. En Europe, on a des dossiers aussi. On a des services de renseignement aussi. Peut-être qu'ils en savent aussi beaucoup, j'en sais rien. Mais on n'aura jamais l'info. Et certains pensent que les chefs d'État, les présidents, les premiers ministres, ils savent. Je suis convaincu que non, ils ne savent rien du tout. Pourquoi vous allez dire à M. Macron, que vous avez des infos sur le phénomène OVNI, que votre service secret travaille sur le phénomène OVNI, ou que ce département de l'armée travaille sur le phénomène OVNI? Il n'a besoin de rien savoir, lui, il ne fait que passer. Aux prochaines élections, il sera peut-être battu, il va changer, il y aura quelqu'un d'autre. On ne va pas donner des infos à des gens qui vont redevenir des civils, entre guillemets. Ouais, même des présidents.
Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut que tu t'en ailles.
J'ai 5 minutes encore, si tu veux. 5 minutes et puis il faut que j'y aille.
Bon, alors, est-ce que tu crois qu'on serait comme un grand musée dans quelques 10-20 ans avec une porte ouverte de la zone 51 quand ils auront fait des appareils suffisamment sophistiqués et qu'ils n'auront plus besoin de faire ça en secret, qu'on aurait une porte ouverte et qu'on irait visiter la zone 51 comme on va visiter un zoo, et qu'on nous montrerait ce qu'on veut bien nous montrer, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne nous montrera pas, et qu'on nous dirait, ben voilà, maintenant vous avez la vérité, on a fait ça, ça et ça. Est-ce que tu crois que dans la vision du futur, c'est envisageable ?
Alors, je vais te répondre avec une question. Je vais te mettre dans une situation. Tu es le grand général en chef qui commande la zone 51. Pendant longtemps, tu n'étais pas marqué sur les cartes, il n'y avait pas de zone 51, personne ne connaissait la zone 51. Bon, ça fait des quelques dizaines d'années quand même que c'est loupé. Alors, on s'est aperçu qu'il y a une zone 51. Tu fais quoi ? Tu continues à mener tes projets secrets sur la zone 51 ou tu vas créer une zone 52 ailleurs ?
Moi, je crois une zone 52 ailleurs.
Ben oui. Donc, si un jour on nous ouvre la zone 51, ce qui est possible pour moi, ben, il n'y aura plus rien à voir, ça sera ailleurs. Après, est-ce qu'il y a vraiment des ovnis à voir à la zone 51 ? Moi, je n'ai pas de preuves. Ce que je sais, c'est que la zone 51 a été utilisée pour les F-117, pour les prototypes de F-117 A et B. S'il y avait autre chose, je pense que ça fait 20 ans ou 30 ans que ça a été déménagé.
D'accord. Bon, et la réponse est effectivement logique. De toute façon, on est dans la logique de la réponse du fait qu'on nous délivre des secrets au compte-gouttes et qu'on veut bien nous montrer ce qu'on veut bien nous montrer et qu'on ne nous
Oui.
montrera pas ce qu'on ne veut pas nous montrer, tout simplement. Voilà. Donc, bon. Mais écoute, voilà, l'émission arrive à sa fin. Donc,
Merci pour l'invitation.
de rien. On rappelle ton nom et ton prénom, que les gens te connaissent.
Oui, alors bon, je m'appelle Thierry Golin, je crois qu'on ne l'a pas donné, on parlait d'OVNI Languedoc, hein,
Voilà.
mais moi c'est Thierry Golin, le président de l'ASSO. Voilà, c'est tout.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir témoigné. On en sait un peu plus sur les enquêtes de terrain. On en sait un peu plus sur OVNI Languedoc, que tout le monde ne connaît pas, même si c'est très connu dans ta région. Voilà. Tu as un site internet, tu as quelque chose?
Oui, on a la page Facebook d'OVNI Languedoc, donc la page d'OVNI Languedoc, et on a un site internet, vous tapez OVNI Languedoc, on est dans la première page de tous les référencements de toute façon.
Alors
C'est facile
n'oubliez
de nous
pas,
trouver.
si vous avez, si vous voyez une observation d'OVNI, si vous êtes témoin d'un objet peu commun, n'oubliez pas d'appeler OVNI Languedoc avec Thierry Golin. De toute façon, vous allez sur sa page Facebook. Tu as des coordonnées, une adresse mail, un numéro de téléphone?
Oui, voilà, soit il passe par Facebook, soit par le site, soit je te donne l'adresse qu'on a mise en service, donc qui est contact, CONTAC, contact, je l'ai oublié, joli, contact arrobase ovni-du6languedoc.com. .com à la fin, attention, pas .fr.
Alors, pour les amateurs de sensations d'observations inexpliquées, vous pouvez communiquer sur cette adresse mail et aller voir sur le site ou sur la page Facebook de Thierry Golin. Voilà. Merci infiniment. Merci Thierry.
Merci beaucoup.
Merci
Au revoir.
infiniment. Au revoir. Et puis, je vous dis pour la prochaine émission. Alors, par contre, vendredi prochain, n'oubliez pas, c'est le commandant Grélet qui est le commandant de bord qui va nous parler de sa carrière de pilote, et il nous fera un petit témoignage sur les ovnis qu'il a observés pendant son vol de pilote. Il en parlera un peu. Lui aussi en a vu. Donc c'est absolument extraordinaire parce qu'on aura le témoignage aussi d'un pilote, mais ce sera surtout sur sa carrière de pilote. Donc la porte de connaissance est terminée pour ce vendredi. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.